Voilà, ouvrons la parole de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et j'aimerais que l'on lise ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Dans ce dernier passage, c'est Jésus qui parle et il nous annonce, il t'annonce que c'est lui le bon berger. C'est lui qui est le bon berger. C'est une image pour nous montrer que Dieu, que Jésus-Christ est celui qui veut nous conduire, veut nous diriger. C'est le but, le principe d'un berger. Et on a pu lire ce psaume, le psaume 23, qui est connu de beaucoup de monde dans le monde entier, même de la part de ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est l'un des psaumes, si ce n'est le psaume le plus connu. Et si autant qu'il y a de personnes qui connaissent ce psaume, s'il y en avait autant qui le vivent réellement, ce monde serait complètement différent, je suis sûr. Et par contre, là, dans cette situation, David, lui, l'expérimentait. Et David, lui, c'était un berger, et il savait de quoi il parlait. Il est celui qui avait vraiment eu ce métier un temps de sa vie, de diriger un troupeau de brebis. Il connaissait. Mais là, dans ce psaume, on voit, et c'est lui qui va se mettre à la place d'une brebis dans le troupeau et qui va dire « L'Éternel est mon berger ». C'est lui qui avait pu expérimenter dans sa vie que c'était lui qui prenait les décisions pour le troupeau, que c'était lui qui conduisait, lui qui dirigeait par lui-même. Mais là, ce qu'il va dire en disant cette simple parole, l'Éternel est mon berger, il reconnaît qu'il a besoin d'être conduit et dirigé par Dieu. Il a besoin de se laisser diriger par Dieu lui-même. Il a besoin non pas de prendre ses propres décisions dans sa propre vie, dans tous les domaines, mais il a besoin de Dieu comme guide, comme berger. Et il peut dire par la suite les conséquences qu'il y a d'une telle affirmation quand elle est réelle, quand elle est acceptée, quand on accepte Dieu comme berger. Il peut dire « je ne manquerai de rien ». C'est vrai, ça fait partie des conséquences. Quand on accepte Dieu, quand on accepte Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, on peut affirmer avec assurance que l'on ne manquera de rien. Ce soir, on va aller un peu plus loin que cette belle parole, parce que c'est vrai, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est une belle promesse de la part de Dieu qui est réelle, mais en même temps, il faut être attentif à toutes les paroles que le Seigneur peut nous donner. Et en tout cas, ne manquer de rien ne signifie pas ne pas avoir de besoin. Je ne manquerai de rien ne veut pas dire je n'aurai plus de besoin. Mais dans cette multitude de besoins, cela signifie que Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin, ce qui nous suffit, ce qui nous suffira pour avancer, pour marcher dans ses voies, pour être dans la paix, dans le repos. Et c'est d'ailleurs la suite de ce psaume. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est le principe du bon berger, de nourrir, c'est pas que de diriger. Parce que souvent on a cet aspect, quand on pense à Dieu, et on pense de suite à des contraintes, à des limites, à cette difficulté à se laisser conduire. Mais Cet après-midi, il est important de réaliser là où Dieu veut nous conduire. C'est encore une image, mais cela nous parle vraiment pour nos vies, pour nos cœurs, que c'est dans ces lieux verdoyants, que c'est dans ces lieux où il y a ces bons pâturages, cette nourriture bonne, excellente pour nos cœurs, pour nos âmes. Parce que c'est vrai que Dieu est celui qui pourvoit aux besoins physiques, matériels. Mais la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il vivra de ce qui sort de la bouche de l'Éternel, de sa parole. Et c'est dans ces verts pâturages que le Seigneur veut nous conduire pour nous nourrir, pour prendre soin de nous, soin de nos cœurs, pour nous donner d'être dans le repos. Il me fait reposer. Et c'est l'appel de Jésus-Christ, c'est l'appel de Dieu. On le retrouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce n'est pas un poids lourd, difficile à porter que le Seigneur veut placer sur nous, mais c'est nous conduire dans ces verts pâturages où il y a cette abondance de paix. La suite, il me dirige, encore une fois, près des eaux paisibles. On comprend ces lieux de paix, près des eaux paisibles. Et là encore, on voit cette image de lieux dans lesquels Dieu veut nous conduire, ces lieux qui sont pleins de ressources. Plein de ressources pour être ressourcé, pour être fortifié, pour relever la tête. Vous connaissez ce psaume. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Et il y a ces lieux pleins de ressources que le Seigneur met à notre disposition. Sans oublier que c'est lui cette source d'eau vive, c'est lui qui est cette source qui désaltère, c'est lui qui est cette source intarissable, auquel il nous appelle pour venir justement. Et c'est encore l'appel de Jésus dans les évangiles, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, et ce soir, quel que soit votre besoin, vous pouvez venir à Dieu, venir à Jésus-Christ, trouver ces lieux de repos, ces lieux de paix, être rassasié, être comblé. Il restaure mon âme. Oui, Dieu est celui qui a ce pouvoir, cette capacité de restaurer nos âmes. Jésus est celui qui est venu pour guérir les cœurs brisés, pour restaurer les vies brisées. Il a tout pouvoir pour cela. Pourquoi ? Parce qu'il est tout puissant, mais parce que c'est lui le créateur. C'est lui le créateur de nos vies, c'est lui le créateur de nos cœurs. On le sait, c'est une image très petite à côté de ce dont Dieu nous parle dans sa parole. Mais quand on a un problème sur une voiture, le meilleur moyen pour la faire réparer, c'est de la mener chez le constructeur. C'est lui qui est le plus à même de réparer le problème qu'il peut y avoir. De la même manière, dans nos vies, dans nos cœurs, quand il y a un problème, Dieu est le seul à pouvoir nous restaurer. Ce soir, je ne sais pas comment vous êtes venu dans ce lieu, comment est l'état de votre âme. Si votre âme est dans la paix, dans le repos, si vous avez cette réelle confiance en Dieu, comme nous l'avons lu, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ou si votre âme, elle est plutôt abattue, triste, découragée. Si votre âme est dans l'amertume, je ne sais pas. Mais on voit dans ce psaume une chose, c'est que Dieu est celui qui restaure. Et ce soir, il veut restaurer. Il veut bénir. Il veut secourir. Il veut guérir. Et pour cela, il nous appelle à l'accepter, oui, comme étant notre berger. C'est-à-dire à accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, mais comme notre berger, comme étant celui qui nous conduit, qui nous dirige. Et c'est l'expérience qu'il veut donner à chacun de nous, sans exception. Vraiment. Dieu ne fait aucune différence. Et ce soir, il veut nous donner à tous de pouvoir vivre la même expérience que David. Non pas seulement une fois dans notre vie. Parce que ce psaume, peut-être pour plusieurs ce soir, vous l'avez déjà expérimenté. certaines parties, peut-être voilà en entier, vous avez déjà expérimenté ce psaume. Peut-être que vous vous l'êtes approprié. Mais ce n'est pas une seule fois dans notre vie, ce n'est pas un temps de notre vie. On le voit à la fin de ce psaume. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et c'est tous les jours que Dieu veut nous donner de vivre le psaume 23, que Dieu veut nous donner de vivre réellement cette expérience. Et peut-être qu'aujourd'hui vous vous retrouvez en difficulté parce que vous n'avez pas su veiller, parce que peut-être vous n'avez pas su écouter la voix du bon berger. On voit dans la Bible ce verset, dans Ésaïe 48, verset 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. » C'est important aussi d'être attentif aux commandements. On a vu cette promesse pour commencer, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais dans ce psaume, on voit aussi « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et la houlette, le bâton du berger était là pour conduire le troupeau de brebis et bien sûr les bons sentiers. Et les commandements du Seigneur sont là aussi pour cela. La Bible dit les commandes de Dieu ne sont pas pénibles. Ils sont pour notre bien. Dieu n'est pas là pour nous donner des limites, Mais ce qu'il veut, on le voit, c'est notre bonheur. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Oui, Jésus est le bon berger. Mais ce soir, il est important d'être attentif, vigilant, parce que si Jésus nous dit qu'il est le bon berger, ça signifie en même temps qu'il existe de mauvais bergers, qu'il existe même des voleurs. Jésus en parle, nous avons lu ce verset, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Je ne sais pas si vous êtes déjà fait voler, cambrioler, ça vous est déjà arrivé. Il y a des choses que l'on a pu se faire voler, parfois ça peut être minime, ça peut être parfois un détail, mais des fois il y a des vols qui sont plus difficiles à avaler. Il y en a qui parfois ont pu connaître le fait de se faire voler leur maison entièrement. Plusieurs parties dans leur maison auxquelles justement ils tenaient des choses précieuses, intimes. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, le sentiment que l'on a quand on se fait voler. Plusieurs témoignent du fait que quand on se fait voler, on se sent comme violé. Et c'est vrai, on viole notre intimité. Mais ce qu'il nous faut comprendre ce soir, c'est que ce n'est pas Dieu le voleur. Dieu n'est pas un voleur. Il ne violera jamais notre intimité. Il nous laisse le choix. Et ce soir, il te laisse le choix de l'accepter ou de le refuser, de le rejeter. Il nous laisse le choix. Mais en même temps, il nous prévient. Hein, il existe un voleur. Et le problème pour nous aujourd'hui, c'est que on peut se faire voler sans s'en apercevoir, sans s'en rendre compte. Hein, il y a des voleurs professionnels. Des voleurs qui peuvent prendre certaines choses, mais sans même qu'on s'en rende compte. On sait, les pickpockets, tout cela. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Et donc on voit dans ce verset, dans ce passage, il est question du Dieu de ce siècle. Et la Bible en parle comme étant aussi le prince de ce monde. Il s'agit du diable, c'est lui le mauvais berger, qui veut faire croire qu'il n'existe pas, que ce n'est que des fables que l'on raconte à son sujet. Et c'est lui le plus grand des voleurs, c'est lui le voleur professionnel qui cherchera par tous les moyens, par toutes les séductions possibles, à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner justement de ces sentiers qui sont parfaits, où on peut être restauré, où on peut être en paix, où on peut connaître le véritable bonheur. Oui, c'est lui qui cherche à aveugler, afin de ne pas voir, comme nous l'avons lu, afin que nous ne voyions pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est une phrase qui est lourde, peut-être qu'on ne saisit pas entièrement quand on l'entend pour la première fois, mais c'est ce qui nous montre vraiment la vie vraiment extraordinaire, merveilleuse que le Seigneur a pour chacun de nous. Et nous le voyons, nous l'avons lu au travers de ce psaume 23, cette expérience qui nous est décrite. C'est pour nous ce soir. Et c'est ce que Dieu veut nous donner de réaliser, de saisir. Nous donner de saisir que la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, si on s'est fait voler, Dieu a le pouvoir de nous redonner ce que l'on a perdu. La Bible dit que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et tu as pu peut-être te faire voler la paix, la joie, le bonheur, peut-être même ton salut, l'assurance de ton salut. Peut-être à cause d'un manque de vigilance, de communion avec le bon berger. Tu as pu peut-être prendre tes propres choix pensant que cela te conduirait à l'abondance. Il y a ce verset dans la Bible qui dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et il y a ce passage dans la Bible où on voit, c'est une parabole que Jésus-Christ donne d'un homme qui va demander à son père son héritage. L'héritage qui lui était réservé. Et cet homme va partir avec cet héritage, pensant bien faire. Il va prendre l'héritage et il va mener sa vie comme il l'entend. Il ne va pas accepter Dieu comme étant son berger. Il va être son propre berger, son propre maître, se laisser conduire par lui-même. Et cet homme va finir au fond du fond. Il va finir vraiment dans la misère, dans la souffrance. Et dans cette situation, il va réaliser. La Bible nous dit qu'il va rentrer en lui-même et qu'il va réaliser qu'il a péché contre Dieu en agissant ainsi. Il a péché contre Dieu, mais qu'il avait aussi péché contre son père, qu'il avait blessé son père. Et cet homme va revenir voir son père pour lui demander pardon. Et on voit comment par la suite son père va lui pardonner, comment il va être restauré, rétabli. Et ce soir, c'est la grâce que Dieu veut nous donner à chacun de nous. Mais ne nous trompons pas, ne nous laissons pas tromper par de faux raisonnements, mais par des mensonges, par, comme je le disais, le Dieu de ce siècle qui veut nous aveugler. Parce que cet homme, ce fils prodigue, dans cette parabole, je vous le dis, je le redis, il pensait bien faire. Telle voie paraît droite à un homme. Il pensait que c'était là la bonne voie, la solution pour lui, pour sa vie, pour qu'il soit heureux. On appelle ça une erreur de jugement. Il a mal évalué, il n'a pas réfléchi aux conséquences. Et le Seigneur nous donne ce soir de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, en sachant les conséquences de nos choix, de nos actes. Mais je le redis, il est celui qui veut, là où on en est, quelles que aient été les erreurs, les difficultés que l'on ait pu avoir, les circonstances dans lesquelles on se trouve, il est celui qui vient jusqu'à nous ce soir. Comme le père dans cette parabole du fils prodigue qui va venir, alors qu'à peine il voyait le fils au loin, la Bible nous dit qu'il va courir à lui, qu'il va courir vers lui et qu'il va le prendre dans ses bras. C'est la même image. C'est ce qui nous montre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, sa volonté à l'égard de chacun d'entre nous. Et il y a une autre parabole qui est plus en lien avec ce passage du psaume 23, une autre parabole que Jésus-Christ donne, qui est un parallèle de cette parabole du fils prodigue. C'est dans Luc chapitre 15, verset 4. Il est écrit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Quelle grâce! Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui vient à nous. Dieu lui-même Et celui qui vient à nous, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et pour cela, il est descendu de son ciel de gloire. Il est venu sur cette terre. Il est le bon berger. Et comme un berger qui prend soin de son troupeau, et que pour en prendre soin, il doit être forcément à côté de son troupeau, de la même manière, Dieu lui-même est venu jusqu'à nous pour être à nos côtés, pour être avec nous, pour que nous soyons avec lui, pour prendre soin de nous. Et nous l'avons lu, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons retrouvés, pour que nous puissions être avec Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie par amour pour chacun d'entre nous. Lui, le bon berger, lui, le Créateur, lui, le Seigneur Tout-Puissant, a donné sa vie volontairement en sacrifice. Il ne pouvait pas en être autrement. Pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, il fallait que Jésus-Christ donne sa vie. Il fallait que son sang coule, soit versé. C'est ce qu'il a accompli volontairement. La Bible nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus-Christ à la croix a pris sur lui nos iniquités, il a pris sur lui notre condamnation, notre péché, afin que nous puissions recevoir de Dieu le pardon, la grâce, afin que nous puissions être restaurés, afin que nous puissions avoir, oui, l'assurance de la vie éternelle. Alors ce soir, Dieu nous appelle à une décision, simplement au travers de ce que nous voyons. Dieu nous appelle à le reconnaître, à l'accepter, à le recevoir, à nous repentir, nous l'avons lu. C'est ce qui amène cette joie dans le cœur de Dieu, dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et Dieu ce soir t'attend, Dieu ce soir t'appelle, Dieu ce soir veut vraiment restaurer ta vie, restaurer ton cœur. Et peut-être que tu as entendu ce psaume à plusieurs reprises, et peut-être même que tu le connais par cœur. Mais je le redis, peut-être que ce n'est plus ce que tu vis aujourd'hui, maintenant. Peut-être que tu ne le vis pas réellement, ce psaume. Et Dieu ce soir te dit, arrête de croire que cette vie faite d'abondance n'est pas pour toi. Arrête de croire que c'est trop loin, que c'est inaccessible. Oui, Dieu ce soir t'appelle à saisir qu'il n'est pas trop tard. Peut-être que tu te dis que tu es allé trop loin et que par tes erreurs maintenant, tu ne peux plus retrouver ce sentier, cette vie vraiment faite de grâce, de bonheur, de bénédiction. Le Seigneur ce soir t'appelle à venir, à revenir à lui, à saisir, à prendre un choix, une décision, parce que lui c'est réellement ce qu'il veut. J'aimerais qu'on puisse prier un instant pour terminer ces moments. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de tout notre cœur, nous te rendons grâce pour ta parole, nous te rendons grâce parce que toi seul, c'est exactement là où nous nous situons, là où nous nous trouvons, là où nous en sommes, sur ce chemin qui mène à toi. Tu connais, Seigneur, nos cœurs, tu connais nos vies devant toi, rien ne t'est caché. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous le savons, tu es plein de miséricorde, plein de bonté, plein d'amour. Tu es celui encore ce soir qui veut te manifester, agir. Merci d'étendre ta main sur chacun. Merci d'éclairer encore, de conduire. Seigneur, d'agir maintenant par ton esprit, de convaincre, de guérir, de consoler, de libérer au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci encore pour cet appel. Merci encore pour toutes ces grâces que tu mets là devant nous, que tu nous donnes de considérer, que tu nous donnes de voir, que tu nous donnes de saisir, que tu nous donnes d'expérimenter. Parce que nous le savons, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais maintenant. Oui, merci parce que là où le péché est entré, ta grâce surabonde. Merci parce que Tant que nous sommes là, vivants, nous le savons, il n'est pas trop tard. Et nous savons qu'encore ce soir, nous sommes dans ce temps, le temps de la grâce. Nous savons que tu manifestes ta grâce encore ce soir envers qui veut la recevoir. Alors je te prie vraiment que personne ne se prive de ta grâce. Seigneur, bénis chacun. Oui, restaure les âmes au nom de Jésus. Amen.